Bonjour chers auditeurs, je vous retrouve...
Bonjour Evelyne.
Oui, alors j'ai dans le studio évidemment Eric, mon fidèle...
Assistant.
Et puis Eric avec un petit C, parce que des fois j'ai Eric avec un K. Et puis j'ai Paul Thompson que vous connaissez bien, et qui est canadien, français, européen, mais qui est aussi membre des British Conservatives in Paris. Il est plus que membre, il est vice-président. Et aujourd'hui, ce n'est pas du Canada qu'il vous parlera, mais avec moi, il évoquera ce qui se passe au Royaume-Uni. Et c'est plutôt une histoire d'horreur. Alors, en attendant, avant de commencer, chers auditeurs, aujourd'hui, 27 mai, c'est avec émotion que je me souviens qu'il y a un an, jour pour jour, nous quittait notre amie et collègue Anne-Laure Mahler.
Exactement. Oui.
Alors, nous pensons souvent à elle à Radio Courtoisie, j'imagine, et à ses proches. En tout cas, moi, je pense très souvent à elle. Et, chère Anne-Laure, vous nous manquez, et nous ne vous oublions pas, et nous ne vous oublierons jamais.
Et nous gardons un tellement beau souvenir de vous.
Oui, absolument. Et pour ma part, moi, j'ai essayé, mais je ne comprends toujours pas un an après pourquoi il fallait absolument qu'elle parte. Voilà. Ça, c'est une autre chose, mais je n'y arrive pas. Je me tourne à présent vers mon invité, mais peut-être qu'avant, Eric, vous avez des petites précisions techniques à nous donner sur les rediffusions et la prise des messages.
En effet, donc nous recevons aujourd'hui, vous recevez Evelyne dans cette émission le Libre Journal du Nouveau Monde que vous dirigez. Vous recevez Monsieur Paul Thompson, qui est vice-président des conservateurs britanniques à Paris. Je me permets de le dire en français.
Et lui, il est là, en présentiel, comme on disait au temps du Covid, il est là en présentiel dans le studio.
Et nous aurons par téléphone Monsieur Matthews Dransfield, qui est le correspondant du groupe dans le Yorkshire.
C'est bien cela. Exactement.
Tout à fait.
Alors là, ça sera
le
vers...
Le thème de cette émission... Pardon, excusez-moi.
Ça sera vers 12h45, 12h50, selon là où nous en serons.
Très bien.
Cher Matthew, je sais que vous êtes à l'écoute. Ne ratez pas ce que nous disons, parce qu'il ne faudra pas... On a tellement, tellement à dire. Le problème, c'est qu'on a une foule d'informations et que nous sommes obligés de n'en tirer que la substantifique moelle. Il faudra faire des réponses courtes, cher Paul Thompson. Et moi, je vais essayer de bavarder le moins possible.
Si vous permettez, je vais juste préciser aux auditeurs que cette émission sera rediffusée tout d'abord cette nuit ou ce soir à 0h et ensuite le jeudi 11 juin à 14h.
C'est-à-dire le
11 juin.
Voilà,
à 14h.
C'est-à-dire le troisième jeudi après l'émission au lieu que ce soit le troisième samedi.
C'est 15 jours après. Voilà.
J'espère que c'est le dernier changement parce que ça devient embrouillant. Alors, on commence. Paul Thompson, le 7 mai dernier, il y a eu un séisme politique en Grande-Bretagne. On a eu le désagrément il y a 2 ans de voir arriver les travaillistes. Alors, travaillistes, aujourd'hui, c'est comme le Parti démocrate américain, c'est carrément socialo-communiste. Donc, on dit les travaillistes, mais ce n'est pas les travaillistes de Keir Hardie il y a 100 ans. Ce sont véritablement des marxistes et en plus, ils sont woke et ils sont pro-immigration, pro-frontières ouvertes. Voilà. Alors, Keir Starmer, le Premier ministre, c'est un désaveu personnel pour lui et c'est un désaveu aussi pour le parti Labour. Est-ce que vous êtes d'accord, Paul Thompson? Attendez, je vous pose d'autres questions et vous allez répondre en bloc. Deux petites questions et je vous laisse, vous aurez 2 ou 3 minutes pour répondre en bloc. Donc, est-ce que c'est le parti qui est condamné ou est-ce que c'est Starmer, la personnalité Starmer? Deuxième petite question. Pour que nos auditeurs, qui après tout ne sont pas forcés de connaître les détails, council elections, ce sont bien des listes de membres qui ont été élus, ce sont des conseils municipaux, si je ne m'abuse, c'est bien cela.
Oui, c'est ça.
Et donc, ce sont des élections évidemment locales, à la différence des élections générales qui, elles, remettent en cause... qui remettent tout en cause. Là, on peut changer. Les élections locales ne permettent pas que le parti au pouvoir s'en aille. Il est désavoué, mais il est toujours là.
Exact.
Vous allez nous en parler. Et donc, troisième petite question. C'est une question que moi je me pose. Starmer a été désavoué par l'électorat en général, et on verra après les gagnants et les perdants. Mais il a été aussi. Il y a également des travaillistes qui ne sont pas allés voter pour lui. Alors. Qu'est-ce qu'il a donc fait pour mériter ça? Est-ce qu'il n'est pas assez à gauche pour eux? Voilà, Paul Thompson, 3 petites questions, pas plus de 3 minutes pour répondre à tout ça.
Donc, ces questions se recoupent en partie. Est-ce que c'est un problème de Starmer ou du Parti travailliste? Je répondrai en disant plutôt de Starmer lui-même.
La personnalité.
C'est-à-dire qu'il a un niveau de non-popularité très important. Il n'a jamais été une figure charismatique comme Tony Blair, ou ni même relativement attirant comme David Cameron. Il est quelqu'un... il ne sait pas le diable, mais il est quelqu'un d'un peu, un peu morne. Donc, et en plus, il n'est pas un professionnel de la politique de vieille date. Il a mené une carrière comme Director of Public Prosecutions, donc un avocat qui travaille pour la couronne. Donc c'est surtout Starmer, sa personnalité également, manque d'incapacité de prendre des décisions difficiles, et il est perçu comme étant... Comme étant très distant par rapport au commun des gens et plutôt sur la même longueur d'onde que les élites du nord de Londres, qui est une sorte de centre de la bourgeoisie de gauche.
On en parlera tout à l'heure avec Matthew Dransfield du nord, on parlera du nord de l'Angleterre tout court et également du nord de Londres. Très bien, Paul Thompson. Donc, je résume. Il a été accusé d'inertie par certains de ses propres ministres. Donc, il est un peu comme Hamlet, il n'arrive pas à prendre des décisions. Élitiste, ça absolument, moi je pense que c'est une créature du marécage, et indifférent au malheur de ses propres compatriotes, et par contre extrêmement indulgent pour la population immigrée qui, dont certains membres, pas tous bien sûr, mais dont certains membres commettent des, plus que des indélicatesses, carrément des crimes et, ouais. et des viols. Donc ça fait beaucoup effectivement pour le même homme. Alors, on va d'abord voir, donc il a été, en un mot, il a été désavoué sur sa politique intérieure, pas sur sa politique étrangère.
Oui, je pense qu'on peut dire ça.
On peut dire ça.
Et sur sa personnalité.
Et sur sa personnalité.
Sa façon d'exercer le pouvoir.
D'accord. Alors on va voir tout à l'heure les gens qui voudraient le remplacer, parce que lui, pour l'instant, il s'accroche. Il s'accroche comme une bernique à son rocher, il ne veut pas partir.
Bah, il a été élu Premier ministre, donc ça n'a rien de choquant qu'il cherche à rester en place. Il était élu pour 5 ans en 2024, donc normalement, il lui reste 3 ans.
Mais enfin, il a quand même été spectaculairement désavoué, donc, mais néanmoins, il s'incruste. Alors, on le verra un petit peu plus tard. Vous m'aviez dit une fois, je crois, qu'il a aussi réussi à s'aliéner une partie du vote immigré, c'est-à-dire du vote des Anglais de confession musulmane.
Oui, c'est exact, parce qu'il est perçu par les musulmans en Angleterre comme étant trop... pro-Israël. Son épouse est juive et il a été perçu comme ayant une comme refusant de critiquer Israël pour les exactions au Gaza.
Il n'y a pas d'exactions à Gaza, je ne suis pas d'accord avec vous.
Mais c'est comme ça que beaucoup de gens ont été tués par l'armée israélienne, donc mais, appelez ça comme vous voulez. Mais,
c'est le Hamas qui gouverne à Gaza, c'est pas les Gazaouis. Donc, on va voir maintenant quels sont les postulants. Alors, parce que il a indépendamment de ce résultat calamiteux pour lui, il s'accroche et alors il a forcé Charles III. Qui à mon avis est un roi d'Imi et complaisant vis-à-vis et de la gauche et de l'immigration. Il l'a forcé parce que quand même la couronne avait dit « Bon, il faudrait peut-être attendre un petit peu que ça se tasse pour qu'on fasse le discours au Parlement. » Eh bien non, 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 allez-y comme prévu à la date fixée. Et donc Charles est intervenu, alors Hermine, couronne, Camilla pareil à ses côtés. Et il a fait un discours qui n'était pas son discours à lui, qui était le discours rédigé pour que lui le lise.
Comme toujours, non,
voilà,
comme toujours.
Dans lequel il... Oui, mais attendez, je termine ce que je vais dire. Je l'ai vu en direct ce discours et moi j'ai trouvé comme les critiques mais en direct au fur et à mesure qu'il parlait je l'ai trouvé pas à l'aise du tout bien qu'il parle évidemment d'un ton neutre quand il a dit mes ministres feront ceci, mon gouvernement fera cela, qu'est-ce qu'il en sait si les prétendants qui veulent remplacer Starmer arrivent au pouvoir puisque ça, il y a une possibilité, on va le voir. Toute cette présentation au Parlement en grande pompe avec Charles et sa queue, sa traîne en hermine, tout ça, ça aurait été pour rien.
Il faut même un beau spectacle.
Oui, oui, mais c'est ce que c'est un spectacle. Moi, j'ai trouvé que c'était une farce, véritablement. Bon, enfin, ça, c'est un point de détail. Alors, je précise une chose, c'est que moi, je suis évidemment très conservatrice, très à droite. Paul Thompson est un centriste, plutôt. C'est-à-dire un conservateur, bah oui, c'est l'extrême centre. Donc, vous allez les défendre, vous êtes bien obligés, puisque vous êtes vice-présidente des conservateurs britanniques à Paris, vous allez les défendre, et moi, je vais les attaquer. Voilà, chers auditeurs, vous avez une idée de la ligne de l'émission. Alors, les postulants, pour revenir à des choses sérieuses.
Justement, si vous permettez.
Allez-y.
En ce qui concerne le discours de la trône, ça fait partie de la vie institutionnelle au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, comme d'ailleurs aux États-Unis ou au Canada, on attache beaucoup d'importance à respecter les traditions institutionnelles. On considère que c'est une force pour le pays d'avoir quelque chose qui tient le navire, même par temps d'orage. Et donc, je pense qu'il faut voir ce discours particulier dans ce contexte. Tout le monde était conscient que les circonstances étaient très particulières, mais il faut que the show must go on, il faut que la pièce continue malgré les turbulences. C'est ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi ça a été fait.
Je comprends, je sais tout ça, Paul Thompson, et je pense que les auditeurs le savent aussi, et vous avez raison. Et ce discours du trône, je comprends bien dans quel fond, sur quel fond historique, sur quelle toile historique ça s'inscrit, je le comprends très très bien. Mais je vous répète tout de même, et je ne suis pas la seule, puisque beaucoup de journalistes, même de droite, l'ont trouvé maladroit, ce discours, en quelque sorte. C'était lui demander quand même beaucoup de s'avancer comme ça sur un gouvernement qui en fait venait juste d'être désavoué. Il y avait une sorte de petit décalage, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on en arrive maintenant aux personnalités qui prétendent remplacer et qui pourraient remplacer Keir Starmer. Parce que je le répète, ce n'est pas le parti malheureusement. C'est uniquement le chef du parti qui pourrait s'en aller. Le parti, lui, il a été voté, il a été élu pour 5 ans théoriquement, et donc ils vont pas faire des élections générales. Mais alors, quels sont les plus dangereux? Vous allez me dire, parce que vous savez mieux que moi, mais j'ai quand même fait des recherches. Alors le plus sérieux, je le garde pour la fin, c'est Andy Burnham. Mais il y en a un qui fait quand même aussi beaucoup parler de lui, qui est Wes Streeting. Alors moi, j'ai un petit portrait, là, robot de Wes Streeting. Alors, je vais faire vite. C'est un jeune travailliste, c'est-à-dire socialo-communiste. Alors évidemment, ils sont tous plus à gauche, il faut le savoir. On va regretter Starmer. On n'aurait jamais cru, mais on peut regretter Starmer. Les prétendants sont tous plus à gauche que lui. Wes Streeting, lui, il était anti-Brexit. Ils veulent de toute façon tous revenir dans le giron de l'Union européenne. Wes Streeting, en plus, il est gay et il serait donc le premier ministre ouvertement gay, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres mais là, ouvertement, on connaissait, il avait des affinités avec le ministre Mandelson, qui est impliqué dans l'affaire Epstein. Mais c'est pas grave qu'il soit gay, mais c'est pas un gay gentil, il est en même temps misogyne. Il pourrait être contesté pour les réflexions maladroites et méchantes qu'il a faites. Alors, c'est pas seulement des réflexions très misogyne, mais en même temps, il a le chic assassin. Il a des envies de meurtre et il s'en cache pas. J'ai quand même ça parce que ça vaut la peine. Il a été pris depuis plusieurs années à dire, il faut carrément punch, c'est-à-dire les frapper dans la figure. Autrement dit, les opposants. Geert Wilders aux Pays-Bas, il mérite tout simplement d'être tué. Il faut aussi carrément utiliser un fusil contre ceux qui veulent échapper à l'impôt, les fraudeurs aux impôts. moi, les dissidents, je suis partisan qu'on brûle leurs appartements. Et enfin, pas mal non plus, je verrais bien un train écrasant tous ces gens-là, toujours parlant de ses opposants. Alors, c'est quand même des réflexions qui pourraient être tenues contre lui s'il persiste à se présenter. Alors, il y a une femme, mais j'ai oublié son nom, et tout le monde dit « Ah, oh, bah alors là, si c'est elle qui se présente, c'est pire que Starmer, mais alors vraiment pire que Starmer. » Alors, le plus sérieux des prétendants, ça serait Andy Burnham. Alors, avant que vous nous en parliez, Paul Thompson, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Farage l'a appelé « Open Borders Burnham », parce qu'évidemment, il trouve qu'il n'y a pas assez d'immigrés. Il voudrait ouvrir les frontières encore beaucoup plus largement. Retour absolu dans l'Union européenne. Il est très anti-Brexit. Alors, surtout plus encore que Streeting, c'est une créature du marécage. Alors, je sais que Paul Thompson conteste qu'il y ait un marécage. Or, moi, j'ai des preuves qu'il y en a un. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu. Et alors, pourquoi est-ce que lui, il est mieux placé que les autres? Il y a un député travailliste. Et là, je vais passer la parole à Paul Thompson, qui s'appelle Joss Simon,
oui.
Qui s'est désisté, qui a dit « Bon, ben moi, je démissionne parce que je voudrais que ce soit Burnham qui prenne ma place. » Mais évidemment, il ne peut pas imposer Burnham tout de suite. Donc, il va y avoir une élection locale. Et Burnham est le maire de Manchester.
Oui.
Et donc, mais quand est-ce que ça va se passer? On n'a pas la date.
Je pense que la date a été fixée, mais je ne l'ai malheureusement pas en tête. C'est dans les semaines qui viennent. La campagne officielle a commencé, je crois.
Et alors, il a dit, et Paul Thompson, après vous, deux choses, et je vous laisse la parole. Il a dit qu'il veut, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit sur lui, il veut faire de l'anti-Thatcher absolument. Farage s'est tout de suite distancé et a dit, mais on n'en est pas à parler de Thatcher. Thatcher et Reagan, c'était il y a 45 ans. On est passé à autre chose. C'est autre chose maintenant que la droite et la gauche d'il y a 45 ans. Maintenant, c'est les mondialistes contre les souverainistes et les gens qui veulent garder le pays. Voilà. Et enfin, dernière chose, ce Conseil européen des droits de l'homme est toujours sur le dos de l'Angleterre. Brexit a été acté, c'est-à-dire une signature qui fait que Brexit, les Anglais sont sortis de là, mais en fait rien, il ne s'est rien passé. Rien. Parce que Brexit a été saboté. Et lui, il veut faire encore mieux que ça. Il veut pas, lui, partir du Conseil européen de l'Europe. Tout ça l'arrange très, très bien. Donc voilà, c'est un mondialiste, c'est une créature du marécage, et il est dangereux, et il pourrait gagner parce qu'il est... il plaît à la gauche. Alors, Paul Thompson, à vous.
Vous n'avez pas parlé de Angela Rayner qui est...
Voilà, c'est le nom que je cherchais. Alors, il paraît
oui, Angela Rayner qui est une superbe rousse qui a énormément de personnalité, un peu comme vous, mais dans un autre genre, et qui est très appréciée, surtout par la gauche du Parti travailliste. Mais elle soutient Andy Burnham. Donc, s'il gagne cette élection partielle, à Makersfield s'appelle la circonscription, je crois, tout le monde pense qu'elle va le soutenir. Si jamais il perdait, ce qui est possible, mais ce n'est pas l'issue la plus probable, mais c'est concevable, elle pourrait se présenter aussi. Et elle est... Elle est un des figures importantes du Parti travailliste. Elle est située à gauche du parti. Elle est d'un milieu ultra modeste, mais elle a su, notamment par une carrière au sein des grands syndicats, monter. Donc voilà, c'est un autre personnage qui joue un rôle important ces jours-ci. En ce qui concerne Andy Burnham...
Quelle date il pourrait choisir pour lancer son offensive? Est-ce que c'est lui qui choisirait la date de cette élection partielle?
Je pense que la date a déjà été fixée.
Ah bon?
C'est George Simons a démissionné. Donc, dans ce cas-là, il y a une machinerie, comme en France, je crois, qui organise la suite. On ne peut pas laisser le siège vacant indéfiniment.
Mais en combien de jours, on ne sait pas.
Je pense que c'est d'ici trois semaines, quelque chose comme ça.
Ça va tomber avec l'anniversaire, le 10e anniversaire du Brexit, grosso modo, le 23 juin. Ça devrait être...
Dans ces eaux-là, je pense.
C'est amusant comme symbole.
Oui, en ce qui concerne Andy Burnham, je pense qu'il y a plusieurs... Vous avez évoqué plusieurs points, donc permettez-moi d'essayer de répondre.
Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ces points. Enfin, moi, c'est ce que j'ai regroupé dans tout ce que j'ai lu sur lui.
Oui, tout à fait. En ce qui concerne le Brexit, il a dit pendant la campagne qu'il était contre le Brexit, pendant la campagne pour le référendum en 2016. Donc ça, c'est clair et net. Depuis, il lui est arrivé de dire qu'il serait souhaitable de revenir vers l'Union européenne, mais c'est vrai que plus récemment, il a changé de discours et il dit maintenant très explicitement, il ne faut pas revenir là-dessus, ça a créé des... ça a fracturé la société britannique, la vie politique britannique. Il ne faut pas rouvrir
oui,
toutes
mais enfin,
ces
c'est
blessures.
Pas parce qu'il le dit que.
Non, c'est vrai. Mais c'est juste pour que les auditeurs oui. sachent, soient au courant de ce qu'il a pu dire. Et le fait de l'avoir dit fait qu'il ne pourrait pas très facilement, dans 3 mois, changer d'avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il, dans 2 ans.
Mais il ne le ferait pas ouvertement. Il le ferait en douce, comme on fait d'ailleurs vos amis conservateurs et comme on fait. Oui, vos amis conservateurs, jusqu'à ce qu'ils soient désavoués il y a 2 ans.
Alors. En ce qui concerne Margaret Thatcher et son héritage, et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines régions de l'Angleterre ont souffert économiquement, comme en France. Si vous regardez le développement économique en France depuis 30 ans, certaines régions ont merveilleusement profité, les métropoles, et d'autres ont vraiment souffert. C'est constatable, objectivement. Il est du nord-ouest de l'Angleterre. Cette région a plutôt souffert. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit différentes industries ont été laminées ou complètement détruites à cause de Thatcher. Alors,
c'est pas à cause de Thatcher, en fait.
Attendez, c'est une analyse un peu courte et contestable, mais il faut comprendre le contexte comprendre pourquoi il parle de Thatcher. C'est important parce qu'en réalité, c'est quelqu'un de pragmatique qui croit à l'importance des entreprises, il est maire de Greater Manchester, c'est Manchester et les villes entourantes, donc c'est un centre très important de la vie économique en Angleterre qui marche très bien depuis 20 ans, et lui est maire depuis à peu près 10 ans, je crois, et il est considéré comme étant un bon maire sur le plan économique. Donc, c'est important de le dire parce qu'il n'est pas un marxiste sur le plan économique. C'est un pragmatique qui tient un discours de gauche, mais qui, en fait, cherche... Il sait très bien que c'est important que la richesse soit produite, qu'il y ait des entreprises, qu'on puisse attirer d'autres entreprises, etc. Et il a un très large soutien à Manchester, pas seulement des gauchistes, d'affreux gauchistes, mais aussi des bourgeois. Et il est très apprécié. Et sur le plan de la personnalité, ça vous n'en avez pas parlé, à tort ou à raison, il est largement apprécié comme étant quelqu'un de... Justement, qui est proche des gens, contrairement à Starmer. Il est un peu l'anti-Starmer de ce point de vue-là. Parce qu'il passe du temps avec toutes sortes de personnes. Donc, il est perçu comme étant proche des gens. Donc, il a un cote de popularité. S'il fait le sol des avis négatifs et positifs, lui est en territoire positif. S'agissant du solde, ce qui est assez rare aujourd'hui au Royaume-Uni, la plupart des figures politiques sont largement en territoire négatif.
Très bien. Alors maintenant, si vous en êtes d'accord, Paul Thompson, j'aimerais que nous regardions, mais brièvement, un petit peu les perdants et les gagnants de l'élection. Parce que jusqu'à présent, on n'a parlé pratiquement que du Parti travailliste, qui, je le répète, est social ou communiste, et qui est woke aussi par beaucoup d'aspects. Même si quelques-uns, comme vient de le dire Paul Thompson, ont quand même encore gardé un petit peu un intérêt pour l'économie de marché. Alors, Le grand gagnant, quand même, de ces élections dernières, ça a été le parti de Farage, Reform UK, qui veut dire comme réformons le Royaume-Uni. Je précise ceci parce qu'il y a un autre petit parti qui a été créé très récemment et qui, mine de rien, monte en flèche et qui, lui, prétend être Restore Britain. Son créateur et son président, c'est Rupert Lowe, qui est un des nombreux transfuges du Parti conservateur. Il est un des rares, avec tous ceux qui sont partis du Parti conservateur, à avoir reconnu les failles du parti, qui a quand même été 14 ans au pouvoir. Tout ça pour nous amener Keir Starmer il y a 2 ans. Donc, lui, il a fondé Restore Britain. Et Restore Britain, mine de rien, vient d'avoir 10 sièges à ses élections locales. Alors donc, Farage, lui, il est le grand vainqueur, puisque la totalité des sièges qu'il a remportés, au détriment des conservateurs, c'est quand même 25%. Autrement dit, il y a un quart de l'électorat dans ces élections pour lui, facilement. Vient après Labour, donc les travaillistes, avec 18%. Ils ont perdu le Pays de Galles. Le Pays de Galles, là où est né, il y a 100 ans, avec Keir Hardie, là où est né leur parti. Ensuite, troisièmement, vous êtes toujours d'accord, Paul Thompson, ceux qui arrivent en troisième position, ce sont vos amis, les conservateurs, mais avec 17%, c'est-à-dire derrière Labour quand même.
Oui.
Moi, je leur reproche, ça fait des années que je leur dis aux conservateurs, ils sont très gentils, je les aime bien, mais rien à faire, ils détestent Farage, ils voulaient tous rester dans l'Union européenne, ils n'ont pas fait attention du tout à l'immigration, ils ont laissé faire, et maintenant ils ont pris Badenoch, et c'est terrible, terrible, terrible que le Premier ministre, le Shadow Prime Minister, soit cette femme qui, à mon avis, n'a pas l'étoffe pour être Premier ministre. Et c'est elle qui avait fait partir Jenrick. On parlera de Jenrick tout à l'heure. Donc voilà pour le... Et alors, après, en quatrième position, sont arrivés quand même les Verts, le Green Party. Et les Verts, c'est la même calamité que chez nous et que partout. Sont des zélotes du net zéro. Et en cinquième position, les Lib Dems, qui ont été, hein, il fut un temps, qui ont été vos associés, enfin, dans une coalition.
En 2010, oui, pour 5 ans.
Voilà.
Ouais.
Alors... Donc ça, il n'y a pas à discuter là-dessus, vous êtes à peu près d'accord avec ça.
Ce sont des chiffres, donc.
Oui, ce sont des chiffres. Oui, mais enfin, j'ai recoupé plusieurs informations, et ils arrivent tous à dire le même. Dans l'ordre, c'est bien comme ça qu'ils sont. Donc, Farage est 13 ans, il a le momentum pour lui pour le moment. Alors, ces élections, donc, disent-ils, font sauter la structure élaborée au 19e siècle du système bipartite. Vous êtes d'accord avec ça, Paul Thompson?
Ah oui, ça, c'est pas contesté.
Il y a un réalignement.
Il y a actuellement une effervescence dans la vie politique britannique, et un peu comme en France d'ailleurs, et on ne sait pas comment ça va terminer, mais vous avez absolument raison. Le système britannique est censé, comme aux États-Unis d'ailleurs, ou au Canada, c'est censé être un système de grands partis, chaque parti étant large, avec différentes écoles à l'intérieur du parti, mais avec des orientations différentes. Et il y avait une alternance entre les deux partis périodiquement. Et maintenant, vous avez un fractionnement, une certaine confusion même. Aujourd'hui, du fait, enfin pour plusieurs raisons, mais c'est qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que le Parti conservateur, par exemple, est en mauvaise posture actuellement? J'espère, en tant que responsable à mon petit niveau de cette association parisienne liée au Parti conservateur, j'espère qu'il va se remettre, mais on est obligé de constater que il est en mauvaise posture. Et le Reform UK a le vent en poupe, mais certains pensent qu'il n'a pas les ressources, Reform UK, pour être un parti de gouvernement et que ça va...
Il y a des conservateurs qui pensent ça.
Pas seulement des conservateurs, d'autres... The Economist, par exemple, est assez sceptique.
Non, attention, ça, c'est les gens qui...
C'est une grande revue de politique et de vie économique anglaise.
Ça fait partie des gros médias.
Oui. Bref, on ne sait pas. Vous avez absolument raison. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce que ça va rester comme ça? Ou est-ce que ça va revenir à un système où il y aura deux grandes parties? On n'en sait rien.
Alors, justement, Farage, lui, veut redresser le pays parce qu'il a dit, s'il a appelé son parti Reform UK, c'est parce qu'il pense qu'il y a des choses à réformer. Et en premier, il veut s'attaquer, en tout premier, ça sera sa priorité, il veut s'attaquer à l'État profond. Lui non seulement, il attaque l'État profond. Et alors, l'État profond, ce sont ces gens, et il n'est pas le seul, hein, tous les transfuges du Parti conservateur qui l'ont rejoint ces dernières années, et en dernier, bon, au début de l'année 2026, Jen Rake, eh bien, disent la même chose. Il faut s'attaquer à l'État profond. L'État profond, qu'est-ce que c'est que l'État profond? Ce sont des gens souvent non élus, des bureaucrates, qui, eux, perdurent. C'est-à-dire, quel que soit le personnel politique en place, eux, ils sont tout le temps en place, ils sont inamovibles. Et donc, mais comme aux États-Unis, comme au Vatican, comme dans tous les États.
C'est
donc,
encore plus qu'aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas le spoil system au Royaume-Uni.
Mais aux États-Unis, pratiquement non plus. C'est une erreur de croire que ça continue. Le spoil system a été pratiquement aboli par le Pendleton Act en 1883. Les gens ne le savent pas. Je l'ai écrit dans mon livre, La guerre culturelle. Je le redis. Je l'ai dit à la radio. Les gens ne le savent pas.
Il y a une différence entre les États-Unis et le Royaume-Uni, en tout cas, dans ce sens qu'aux États-Unis, quand une nouvelle administration arrive, il est de pratique, que ce soit les républicains ou les démocrates, de faire des nominations aux postes les plus élevés. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, ni au Canada. Dans ces pays, la fonction publique est censée être politiquement neutre. Et donc,
Paul Thompson,
on ne les change pas.
Excusez-moi, aux États-Unis, il n'y a environ que 10% des technocrates dans les agences fédérales qui peuvent être remplacés. Les autres
mais
restent.
Ça fait beaucoup.
Il en reste quand même 90%. Donc, ce n'est pas vrai que la loi des dépouilles, la règle des dépouilles continue. Pas du tout. Le Pendleton Act n'a jamais été aboli. Il y a un autre... Trump, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, j'aurais envie de citer Jen Rake. Alors, attendez, avant d'en arriver là, il y a le vice, comment l'appeler, le numéro 2 du parti Reform, qui est Richard, lui aussi un transfuge des conservateurs, Richard Tice, que moi j'aime beaucoup, comme personnalité, il me plairait même mieux que Farage. En 2019, vous vous rappelez, Farage avait fait une fleur aux conservateurs, il avait retiré ses candidats pour laisser toutes ses chances à Boris Johnson. Il n'a jamais été remercié comme il le fallait de cela. Bien au contraire, il a été dédaigné et méprisé. Et maintenant, ce sont certains conservateurs qui parlent de faire alliance avec Farage. Mais Richard Tice, lui, non, pas question, plus terminé. Vous avez raté la chance. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de coller. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que c'est compréhensible comme réaction dans les circonstances que vous avez justement décrites. Mais ça ne préjuge pas de ce qui se passera quand on sera plus proche d'une élection générale où il y aura des pressions, comme en France, pour désister dans certaines circonscriptions si on sait que ça permettra au Reform UK ou aux conservateurs de passer. Et après la prochaine élection générale, tout de suite après, quand on aura les résultats, la distribution des sièges, il y a de bonnes chances qu'il y ait une sorte d'alliance, une coalition entre les Reform UK et les conservateurs, parce que si l'alternative était un gouvernement de gauche, cette animosité quand même.
Post-élection, vous avez raison, il y a des arrangements se feront vraisemblablement. Mais on n'en est pas là. Et alors, il y a un autre transfuge des conservateurs qui s'appelle Danny Kruger. Et Danny Kruger, lui, il est tout à fait d'accord avec Farage. Et la raison pour laquelle il a quitté les conservateurs, c'est que justement, il reconnaît lui. Et c'est ça que je reproche à vos amis conservateurs, Paul Thompson. Ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. rien à faire. Ils veulent pas s'examiner, ils veulent pas comprendre ce qu'ils ont fait qui déplaisait. Ils veulent pas comprendre. Alors lui, Danny Kruger, il met les points sur les i. Il dit ceci. Il dit, il attaque le, comme Farage. Il dit j'attaque moi Westminster, c'est-à-dire le cabinet. Alors il désigne Dame Antonia Romeo, je ne sais pas si vous la connaissez,
non,
pour être la personne qui a le plus de pouvoir au sein du gouvernement britannique. C'est-à-dire que parce que le Cabinet Office, comment c'est le bureau ministériel, on pourrait dire
Je ne sais pas. Il y a le bureau du Premier ministre qui organise la vie du cabinet.
Oui, mais c'est un petit peu différent parce que cette personne, elle qui se trouve là, elle sert aussi comme branche de coordination entre les différentes politiques et elle a beaucoup de pouvoir sur les agences, enfin sur le Intel, sur les services secrets.
Mm-hmm.
Donc, il paraît que c'est un personnage clé de l'État profond, d'après Danny Kruger. Et il dit, une toute petite phrase que j'ai notée, le pouvoir réel, dit-il, est détenu non par le gouvernement élu, quel qu'il soit, mais par le civil service permanent, les fonctionnaires permanents, et notamment le cabinet secretary. Comment dire ça en français, le cabinet secretary, et la bureaucratie tentaculaire du cabinet office. Alors, cabinet secretary, c'est un peu ce qu'on comprend, nous, en tout cas français, même si on n'est pas dans les arcanes du pouvoir britannique, on comprend qu'il y a un pouvoir de l'ombre quand même, qui est plus, qui agit avec efficacité, qui a plus de pouvoir que les élus.
Mais ça, je pense que il y a du vrai dans cette description, mais il ne faut pas trop dramatiser. Je pense que c'est significatif, donc ça vaut la peine d'être signalé, ça c'est sûr, mais il faut savoir que ça a toujours existé, comme dans les...
Non, non, non.
Si, il y a des hauts fonctionnaires... dans la France de l'Ancien Régime, vous aviez une sorte de trésor de l'époque qui était très puissant, ce n'était pas le roi, mais c'était des très hauts fonctionnaires qui géraient les finances du royaume et ils étaient très puissants. Mais bon, c'était normal. Et vous avez besoin de hauts responsables qui sont permanents et par la force des choses, ils ont de l'influence. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'ils usurpent les pouvoirs des politiques? C'est ça la question fondamentale.
D'après Kruger, absolument. D'après Farage, exactement. Et Farage dit ceci, il faut s'attaquer au Westminster Council.
Il y avait, après le Brexit, il y avait, là je vais dans votre sens, il y avait des tentatives de tous les côtés, dans la haute administration, pour torpiller le Brexit. Donc ça, c'était
complètement
scandaleux, très critiquable. Donc ça illustre votre propos.
Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là.
Ça illustre votre propos. Néanmoins, juste pour tempérer un peu, j'ajouterais qu'il est normal qu'il y ait des hauts responsables fonctionnels qui font tourner la boutique, ça c'est nécessaire.
Et vous avez raison, et être haut fonctionnaire de l'État, il n'y a rien de honteux à ça, c'était même au contraire une profession particulièrement digne, sauf oui. Que plus récemment, dans les dernières décennies, ça a dégénéré. Et malheureusement, ces États profonds qui existent dans tous les pays, et je le répète également au Vatican, partout où il y a un État, eh bien ces États profonds, ils correspondent entre eux, par-dessus les peuples, par-dessus les gens élus, par-dessus les frontières. Ce sont
je pense que c'est un peu la condition humaine quand même, les gens
Parce que vous êtes très généreux, mais moi je pense que c'est quand même une dérive.
Il peut y avoir des dérives.
Oui.
Non, je suis d'accord. Et quand cela arrive, il faut le dénoncer.
Oui.
Et s'évertuer à écarter les dérives. Je suis totalement d'accord avec vous. Et Trump, par exemple... Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un bon cas d'école. A été empêtré pendant son premier mandat assez largement. Et il en a pris la leçon. Et au deuxième mandat, il a pris les devants pour... et il avait raison de le faire pour ne pas être bloqué par des gens qui n'avaient pas le droit de le bloquer, mais qui essaient de le faire quand même à cause de l'opposition.
Pour résumer, tous ces états profonds qui sévissent dans l'ombre, et le citoyen lambda ne se rend compte de rien, ne se doute de rien, eh bien, en fait, ils sont tous calqués pratiquement sur la structure de l'Union européenne. Voilà. C'est pour ça qu'ils aiment tellement l'Union européenne, c'est pour ça qu'ils aiment tellement l'ONU, le soi-disant droit international. Voilà, tous ces gens-là vivent dans un autre monde que le nôtre.
Peut-être parce que l'Union européenne procure un pouvoir absolument
hors norme.
À une bureaucratie très protégée par rapport aux démos dont ils ne veulent
pas
entendre parler.
Des gens non élus.
Donc c'est un modèle superbe pour les bureaucrates.
Voilà. Exactement. Donc cette dérive des états profonds, c'est pas récent, mais il y a une centaine d'années, ça fait partie de la guerre culturelle, mais plus particulièrement depuis une quarantaine d'années et depuis la mondialisation qui a commencé sévèrement à la fin des années 90.
C'était voilà, fait pour ça, absolument. Oui.
Alors, Paul Thompson, où est-ce que nous en sommes maintenant? Dans 5 minutes ou plus, nous appellerons Matthew Dransfield, mais pour le moment, j'avais encore un tout petit... Ah, j'aurais voulu, avant qu'on appelle Matthew, j'aurais voulu qu'on parle quand même de Tommy Robinson, parce que Tommy Robinson, qui est méprisé par les conservateurs, alors que, bon, on sait, on connaît son passé de voyou, mais il a payé pour ça, et il a fait, à mon avis, maintenant, il est redevenu tout à fait fréquentable. Et il représente quand même, ce peuple britannique qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas se laisser envahir, qui ne veut pas qu'on le remplace, qui est encore fier de ses traditions, qui sort le drapeau le jour de la Saint-Georges, alors que le roi Charles, lui, n'a pas honoré la Saint-Georges, mais au contraire a salué ses compatriotes musulmans lors du Ramadan. Enfin bon, tout est à l'avenant. Donc il représente, il en est venu à représenter, c'est le contraire de l'état profond, c'est l'Angleterre profonde, c'est-à-dire le peuple anglais, de vieille souche, il en est venu à... Voilà, qui n'est pas raciste, mais qui se défend et qui ne veut pas être englouti et annulé par les nouveaux arrivants. Alors, il y a eu une manifestation le samedi 16 mai à Londres, et toute petite chose, je ne sais pas si vous en avez... Enfin, ce n'est pas une petite chose, c'est un drame à vrai dire, mais... Non seulement il y a eu une manifestation monde, mais Tommy Robinson a parlé de diverses choses, bien entendu, comme d'habitude, et de la nécessité de combattre cette agression de la gauche et des idées woke et mondialistes. Mais c'était aussi un rappel, parce qu'il y a un procès qui commence d'un Sikh. Un Sikh qui, parce que, pareil, les gouvernements britanniques woke, et en 2023, c'était vous, les conservateurs qui étiez aux affaires, eh bien, donc vous êtes impliqués. Il y a eu un meurtre abominable à Southampton d'un jeune homme qui s'appelait Henry Nowak, 18 ans seulement, qui était simplement sorti le soir avec des amis, qui a été poignardé à 4 reprises par un Sikh. Et les Sikhs, ils ont le droit de garder leur turban quand ils sont dans la police. Déjà, ça c'est rien, c'est un détail. Ça c'est le petit détail visible.
C'est symbolique.
Moins symbolique, ils ont aussi le droit, parce que c'est leur culture, d'avoir sur eux toute une panoplie de couteaux. Or là, celui qu'il a utilisé, c'était quand même 16 inches. Ça fait quoi ça? Ça fait une lame de... C'est une dague. Carrément.
16 inches, ça fait 35 centimètres.
35 centimètres, c'est carrément une dague. Bon, il a frappé ce jeune homme sans raison. Sans raison. 4 fois. Et le pire de tout, c'est Tommy Robinson en a... C'est pour ça que je m'attarde un peu. Tommy Robinson dit, voilà, le procès commence maintenant. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'on a fait à l'un de nos compatriotes. Parce que ce jeune homme qui était blessé, qui perdait son sang, la police, au lieu d'arrêter le Sikh, qui lui avait volé son portable... Il a été retrouvé après, et grâce au portable, on a pu voir que le jeune homme n'avait rien fait de mal. Il ne l'avait pas attaqué, ni agressé verbalement, ni rien. Il était complètement victime, 100% victime, l'autre complètement agresseur. Au lieu d'arrêter le Sikh avec son couteau ensanglanté, ils ont arrêté le jeune homme. Et autrement dit, ils l'ont condamné à mort. Au lieu de immédiatement le faire transporter à l'hôpital. Ils l'ont emmené en garde à vue au bureau de police de Southampton. Et il est mort. Il a perdu son sang.
C'est très
C'est quand même une abomination.
Oui, enfin, même s'il était un criminel avéré, il aurait dû l'emmener directement à l'hôpital, d'ailleurs.
Exactement. Ils auraient dû, voilà. Donc là, il y a quand même une bavure majeure de la police. C'est plus qu'une bavure, c'est carrément un crime, à mon avis. Et la justice de M. Sunak, à l'époque, n'a rien fait. Hein ? Voilà. Et le roi Charles n'a pas eu un mot de compassion pour ce jeune homme non plus. Moi, c'est des choses que je ne peux pas comprendre, Paul Thompson.
Il se trouve que j'ai lu un long entretien avec Tommy Robinson dans Omerta. Et il y explique que pendant des années, il était traité comme un véritable paria en Angleterre jusqu'au jour où il a été invité à participer à un débat au Oxford Students Union et il a pu s'exprimer librement en expliquant pourquoi ces sujets lui tenaient à cœur, pourquoi il voyait que l'Angleterre était menacée et qu'il y avait des injustices criantes qu'il fallait traiter. Et il a dit qu'après cette réunion, il a été applaudi et beaucoup de gens sont venus le féliciter pour son courage, la pertinence de ses vues, etc. Et maintenant, son statut a changé. Il a eu le soutien de Elon Musk. Donc, il a un positionnement différent et il a attiré des gens, pas seulement de droite, mais de milieux très divers, à ma compréhension, à l'occasion de cette réunion. Il y en avait eu une autre l'année dernière qui a attiré beaucoup de monde aussi à Londres.
Alors justement, puisque vous parlez de Musk, je sais qu'on a un bobino à passer après ça. Puisque vous parlez de Musk, Musk a financé en grande partie cette manifestation qui s'est admirablement déroulée sans une bavure. Et il a également fait savoir, Musk, qu'il finançait, la défense dans le procès qui commence sur ce jeune homme, Henry Nowak. C'est bien quand même.
Intéressant. Hein.
C'est bien quand même. Alors, nous allons avoir un Bobino et après ce Bobino, nous appellerons notre ami Matthew Dransfield.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Alors, avons-nous Matthew Dransfield en ligne ? Faut mettre les casques ?
Oui.
Oh mon Dieu, quelle horreur ! Les casques sont des instruments de torture. Il est où le mien ? Alors, on va avoir Matthew Dransfield. On va le voir ou on ne va pas le voir ? Où est-ce que lui nous voit ? Bon, enfin, en tout cas, Matthew, est-ce qu'on vous entend au minimum ?
Je vous vois.
Ah, et vous nous voyez. Bon, bah, écoutez, formidable. Alors, écoutez, Matthew, comme vous n'avez que 8 minutes, je vous pose tout de suite mes questions et vous répondez dans l'ordre qui vous arrange. Alors, le Nord me semble particulièrement concerné par ces dernières élections. Premièrement...
Le Nord de l'Angleterre, vous voulez dire.
Comment ?
Le nord de l'Angleterre, vous voulez dire.
Bah oui, ça va de soi. On parle de l'Angleterre. Votre nord, votre cher nord, Matthew, me semble particulièrement concerné. Étonné qu'il y a beaucoup de grandes villes du nord qui sont tenues par la gauche. Et alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez entendu de l'émission, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et donc, vous avez 8 minutes, on vous écoute.
Je suis très content de pouvoir être là avec vous ce midi, de faire cet échange sur ce qui se passe au nord de l'Angleterre actuellement. C'est toujours intéressant d'échanger sur ce sujet-là. Donc, il y a eu des changements importants lors des élections municipales, comme Paul il a évoqué ce sujet. Et donc, je vais me concentrer sur le Yorkshire de l'Ouest, qui est à peu près 300 km au nord de Londres. Et je vais me focaliser donc sur cette région. On parle de Leeds, Bradford, Calderdale, Kirklees et Wakefield, parce qu'il y a eu des changements importants, mais aussi je vais parler de Manchester et de Makerfield aussi pour comprendre ce qui s'est passé le 7 mai, parce qu'il y a eu des changements importants. Mais avant de se faire, j'aimerais juste faire mention de ce que l'ancien Premier ministre Tony Blair a dit ce matin. Il a dit que les travaillistes ont presque une capacité limitée d'auto-illusion. Donc, il dit qu'il manque de stratégie alors que certains députés veulent remplacer leur chef, M. Starmer. Donc, intéressant de prendre en note ce que cet ancien Premier ministre pense, n'est-ce pas? Donc,
oui,
je reviens à Yorkshire de l'Ouest. Et en fait, c'est un maire qui est difficile à naviguer pour le moment, je dirais, tout au début de ces nouveaux gouvernements municipaux. Je prends l'exemple de Bradford, donc le parti réforme a gagné le plus grand nombre de conseillers. Ils ont élu un chef de conseil qui est M. Place, qui est un conseiller de réforme, mais ils n'ont pas de majorité. Mais le maire, le nouveau maire de Bradford est un conservateur, donc ça c'est intéressant. À Kirklees, c'est similaire pour le moment. D'après ce que j'ai lu, il n'arrive pas à mettre en place un nouveau chef de conseil, alors que de même, Reform a frappé de façon très forte. Et à Leeds, Labour a perdu pas mal de conseillers, mais il garde toujours le pouvoir. Et ce qui est important surtout, c'est qu'à Calderdale et à Wakefield, Reform a gagné les majorités et donc les chefs des conseils sont du parti Reform. Donc, on voit un changement majeur. Donc, les travaillistes, disons, ils ont été fortement frappés. Et c'est non seulement dans le Yorkshire de l'Ouest, on le voit près de Makerfield où cette élection va avoir lieu. C'est le 18 juin. Je souligne.
Ah, merci.
Oui, c'est le 18 juin. Mm-hmm. Parce que près de Makerfield se trouve la ville de Wigan. Et le député de Wigan, c'est Madame Lisa Nandy, qui est la ministre de la Culture. Et le 7 mai, la politique, le paysage politique municipal a complètement changé parce que Reform a gagné, si je me souviens bien, c'est 26 sur 27 sièges. Donc, ça, c'est juste à côté de Makerfield, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans la ville où se trouve ce député travailliste. Donc, on est dans la zone de la ceinture rouge du Nord, mais on s'aperçoit qu'il y a des changements en cours et en fait, on a plusieurs députés travaillistes importants dans le nord de l'Angleterre. Il y a donc le ministre de la Culture, il y a Angela Rayner, il y a Rachel Reeves qui est le ministre des Finances, par exemple, et le ministre de la Défense, lui, il est dans le Yorkshire du Sud. Donc, on a quand même une représentation importante de ces travaillistes dans cette ceinture rouge. Donc, en fait, le 18 juin, on s'interroge sur ce qui va se passer. Et donc, ce monsieur Simmons qui a décidé de permettre, il espère que Andy Burnham va passer, qu'il va gagner. Mais en fait, selon tout ce qu'on peut lire, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Instagram, sur Facebook, sur la BBC, tout ce qu'on entend, c'est à propos de Makerfield. parce qu'ils s'attendent à ce que M. Burnham puisse entrer donc, au pouvoir à numéro 10 donc, en tant que Premier ministre. Mais le chauffagiste, M. Kenyon, qui est le représentant de Reform, il est vraiment tête à tête, je pense, avec...
Ça va être passionnant à surveiller.
Oui, je pense que même en tête à tête, et on ne sait pas pour le moment ce qui va se passer. Sauf que certains disent que Restore risque de diminuer le vote de Reform, et donc, comme ça, M. Burnham va pouvoir passer au pouvoir numéro 10. Mais voilà. Donc, c'est un paysage politique en voie de changement. Et en fait, c'est très intéressant, mais c'est inquiétant en même temps. J'espère que dans les localités où nous avons ce nouveau gouvernement, en grande partie gouverné par Reform, donc c'est relativement nouveau quand même, comme parti politique, j'espère que les choses vont pouvoir se calmer. À Kirklees et à Bradford.
Ça veut dire quoi, se calmer, Matthew Dransfield? Qu'est-ce que vous entendez par les choses se calmer?
Ben, je pense que dans les chambres de Kirklees et de Bradford, ça n'a pas été facile pour élire un chef de conseil. À Bradford, ça a été fait parce que M. Place a été élu. Mais en fait, toutes les fonctions, on dit non exécutants, mais les comités, par exemple, il me semble que ces comités seraient dirigés par les autres partis. Et à Kirklees, pour le moment, d'après ce que j'ai pu lire, ils n'ont pas encore réussi à élire un chef de conseil. Alors que Reform a quand même fortement frappé, mais ils n'ont pas de majorité absolue. Je pense que c'est ça le problème. Mm-hmm. Alors qu'à Calderdale et à Workfield, ce n'est pas le cas, donc ils ont des majorités absolues. Le paysage change et je sais qu'ailleurs dans le pays, on a des changements importants aussi. C'est un peu difficile de parler de tout. En 10 minutes, mais voilà ce que je peux dire pour le moment.
Ben, c'est très bien.
Mais je souligne que je pense que ce que M. Blair a dit très intéressant, c'est que lui, il se pose une question très importante sur la stratégie des députés de son propre parti.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Je pense qu'on a fait le tour de la question pour le Nord, enfin, très très brièvement, mais bon. Vous aviez écouté le début de l'émission?
Oui.
Oui, bon, vous étiez d'accord à peu près avec ce qu'on avait dit?
On a dit beaucoup de choses.
On a dit beaucoup de choses. Bon, il est temps de vous quitter, là.
Mon accord sur l'ensemble me semble comme une tâche difficile. Oui, je vous ai entendu.
Bon. Très bien, Mathieu. On va vous quitter parce qu'il va être 13h et je vais faire un petit entracte cinématographique, ce que je ne peux pas toujours faire. Et après, nous reprendrons les... J'espère que vous restez à l'écoute là où vous êtes. Et puis, s'il y a des messages, eh bien, vous entendrez. Nous passerons les messages après le petit entracte cinématographique. Matthew Dransfield, merci beaucoup de votre intervention, merci de votre éclairage sur le nord de l'Angleterre, qui est si important dans ce contexte, et puis à très bientôt. Au revoir, Matthew.
Merci, au revoir.
Enlever les casques, c'est comme quand on enlève des chaussures de ski ou un gros équipement. Alors, on se retrouve maintenant. Alors, il n'y a pas de Bobino, il y a des messages, Eric, mais bon, je vous laisse les...
Voilà, on fait... Enchaîner sur la chronique.
Alors, il y a eu dans Dreuze cette semaine un article très intéressant sur le cinéma en général qui disait que Kevin Costner est en train de vendre sa maison, qui ne coûte pas 4 sous, pour financer son deuxième épisode du western Horizon. Horizon, moi, je l'avais vu il y a 2 ans, fiasco total pour lui, ce que je comprends, parce que c'était, comme tous les films de Costner, il devrait... Bien sûr, il veut réaliser quelque chose, son rêve, soit, mais il ne se rend pas compte que ses films sont trop longs et sont rasoirs et qu'ils ne sont pas toujours cohérents non plus. Donc, en tout cas, ce qui est admirable, effectivement, c'est le fait qu'il prenne des risques. Et ça, si je parle tout le temps de films anglais ou américains, c'est parce que, au moins, ce sont des productions privées qui ne bénéficient pas de subsides publics. Tandis que l'article de Dreuze terminait en disant, voilà, ça fait quand même une sacrée différence avec notre cinéma qui tend toujours la main, voilà, qui est toujours en état de mendicité. Donc, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui qui tient le haut de l'affiche dans tous les cinémas, c'est Le Diable s'habille en Prada 2. Alors, c'est une prouesse en ce qui concerne le metteur en scène, parce que c'est le même metteur en scène 20 ans après, le premier, Le Diable s'habille en Prada, donc 2006, pile 20 ans après, le même metteur en scène, David Frankel, réussit à réunir les mêmes acteurs, ce qui n'est pas évident, comme les gens disent aujourd'hui, parce que 20 ans après, on peut être mort ou on peut ne plus être. Bon, là, il a réussi. On a changé, comme vous dites. Alors là, justement, ils n'ont pas beaucoup changé physiquement. Ils ont changé moralement, mais physiquement, pas trop. Alors, on retrouve donc Anne Hathaway. Alors, elle n'a plus la fraîcheur quand même qu'elle avait dans le premier film, mais elle est encore toujours très, très mignonne, très jolie et très mince. Stanley Tucci, qui est excellent dans le numéro 2, l'homme qui seconde l'horrible Miranda. Très bon acteur, du reste. Et on retrouve évidemment Meryl Streep, qui a un petit peu vieilli, qui est toujours aussi vilaine. Moi, je la trouve laide, personnellement, cette actrice. Bon. Qui est dans le rôle de Miranda, la très, très méchante Miranda. Alors, ils sont tous plutôt bien conservés. Mais surtout, moi, celle qui m'a vraiment impressionnée, c'est Emily Blunt, qui joue d'ailleurs le rôle de Emily dans le film, c'est-à-dire l'attachée de presse, en quelque sorte, celle qui est responsable de tout faire pour faciliter la vie de Miranda, l'impossible Miranda. Et donc, qui est odieuse, et qui est, on se rappelle, le premier film était franchement odieuse. Et bien là, on voit qu'elle aussi, elle a un petit peu évolué mentalement. Alors, ils ont parachuté un acteur shakespearien qui est Kenneth Branagh pour être le deuxième mari de l'horrible Miranda. Et on ne voit pas comment quelqu'un pourrait supporter Miranda. Enfin, personnellement, moi, je n'arrive pas. Et on n'a pas connu son premier mari dans le premier film. Bon, donc là, lui, il est parachuté un petit peu. Il ne sert pas à grand-chose dans le film. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, chers auditeurs, il y a un mois, je vous ai parlé d'un film qui s'appelait « L'ultime héritier », dans lequel on voyait ce jeune homme qui se débarrassait de tous ses cousins pour arriver à toucher l'héritage. Et la philosophie du film, enfin, ce qui s'imposait, l'idée directrice, c'était être milliardaire ou rien. C'était ça dans la vie, être milliardaire ou rien. Alors dans le film Prada numéro 2, ce n'est pas être milliardaire ou rien, mais c'est se servir des milliardaires pour faire avancer sa propre carrière. Parce que tous ces gens-là sont carriéristes. Alors, on voit en même temps la dureté de la vie en Amérique. On est limogé très, très facilement de postes importants. On retrouve également du travail plus facilement qu'en France. Mais enfin, ce n'est pas du tout pareil qu'en France. Donc ça, c'est rien que pour voir ça, ça c'est vrai. Ça, ce n'est pas inventé. Ça, c'est une tranche de vie là, qu'on voit, qui existe. Et surtout, ce qu'on voit, on revoit ce monde de la mode qui a quand même changé aussi en 20 ans. Miranda elle-même se plaint que rien ne dure, que l'informatique envahisse tout, l'intelligence artificielle aussi. Alors, ce qui demeure, ce sont ces défilés de mode, de haute couture. Et alors, le film va à 100 à l'heure, c'est assez saoulant comme rythme. Et là, la philosophie du film, ça serait en fait être carriériste et savoir être le plus malin pour faire en sorte que les milliardaires dont ils dépendent, parce que c'est quand même eux qui ont l'argent, que les milliardaires fassent des deals, comme dirait Trump, c'est-à-dire négocient des contrats qui les arrangent en jeu dans leur carrière. Et alors, donc, le film vaut quand même... Moi, j'ai lu des très mauvaises critiques du film. Non, c'était pas la peine, nanana. Ben, je suis pas d'accord. Le film vaut quand même la peine d'être vu. Donc, il y a le portrait de ce carriérisme échevelé. Et ce défilé qu'on voit à Milan, qui est censé se passer à Milan, ça m'a fait penser que la dernière fois aussi, j'avais parlé du satanisme de la gauche américaine. Ben là, on a un petit peu, il y a des aspects sataniques dans ce défilé qui ne sont pas sans rappeler le défilé du Met Gala dont on a parlé il y a quelque temps, qui était franchement satanique aussi, un petit peu comme ce qu'on a vu dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. Voilà. Et enfin, je termine en disant que ces personnages, donc oui, ils ont évolué, ils sont plus humains. Ils découvrent quand même certaines qualités, ils apprennent à être reconnaissants, à avoir un peu de gratitude pour les gens qui ont rendu service. Et on découvre même que Emily, la méchante Emily, est capable d'amitié. Et même Miranda est capable de reconnaissance. Donc il y a quand même une différence avec le premier film. Voilà ce que j'en dis. Donc à mon avis, oui, vous pouvez quand même aller le voir. Vous passerez deux bonnes heures. Et ce n'est pas nul, comme les gens le disent. Pas du tout. Cher Paul Thompson, est-ce que vous avez vu ce film?
Oui, je pense que vous... Je dirais plus que vous, à savoir qu'il faut absolument aller le voir. Il est très divertissant. Un très beau spectacle. Et en plus, il y a cette dimension humaine que vous décrivez. Donc, il est à ne pas rater, c'est ce que je dirais, pour compléter votre propos.
Alors, nous allons reprendre, merci Paul Thompson, nous allons reprendre notre émission. Moi, j'aimerais pouvoir parler de Jen Ricks un petit peu, j'aimerais pouvoir parler un petit peu de la politique étrangère, donc nous n'avons pas abordé de Starmer, mais auparavant, nos auditeurs.
Je vous rappelle que vous écoutez le Libre Journal du Nouveau Monde dirigé par Evelyne Josselin, qui reçoit aujourd'hui M. Paul Thompson, qui est vice-président des conservateurs britanniques à Paris, et M. Matthews Dransfield, par téléphone, qui est le correspondant du groupe dans le Yorkshire. Le thème de cette émission, ce sont les répercussions et les conséquences des élections municipales du 7 mai. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 0h, à minuit, et jeudi 11 juin à 14h. Nous avons reçu, d'abord, chère Evelyne, vous avez reçu des remerciements concernant de deux fidèles auditeurs, très fidèles auditeurs qui nous écoutent très régulièrement, concernant l'hommage poignant que vous avez fait à l'encontre d'Anne-Laure Malher. Je vous laisse bien sûr ces témoignages. Un auditeur également nous dit ceci. Madame, monsieur, bonjour, donc adressé à vous et à vous, monsieur Thompson. La description que vous faites du Premier ministre britannique est, selon moi, parfaite et s'ajoute ou s'associe au personnage qui occupe actuellement l'Élysée. Imagine-t-on un seul instant leur confier les êtres qui nous sont chers ?
Bon, c'est pas une question, mais c'était un commentaire intéressant.
Voilà.
Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de questions.
Pas d'autres.
Bon, parce qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un pour prendre les questions au téléphone, contrairement à la dernière fois où
nous
il était absent.
Remercions Jean-Loup
voilà.
à cette tâche.
Alors, Paul Thompson, on n'a pas parlé du tout de la politique étrangère. Il y a quand même deux questions et on va les traiter rapidement aussi. Vous pensez donc que c'est pour ménager le vote musulman que Starmer n'a pas voulu s'engager auprès de Trump en Iran, parce que aux dernières nouvelles, il a un bateau spécial, lui, de déminage. Et alors, il serait prêt à aller déminer. Mais attention, quand la situation à Hormuz va être résolue, qu'il n'y aura plus de danger. Là, il est prêt à aller déminer le fond du golfe Persique. Alors ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est en politique étrangère, quelle est l'autre question? Je ne sais.
Ça peut être très utile parce qu'une fois que les Iraniens auront enlevé les mines qu'ils se proposent de faire, ça permettrait de jeter un coup d'œil pour voir si ça a été vraiment fait.
Oui, mais ce n'est pas que ça ne serait pas utile, on est bien d'accord. Mais ce qui est amusant, c'est que Starmer se décide, mais à condition, une fois qu'il n'y aura plus de danger.
Oui, mais à ce moment-là, il n'y a plus besoin de des mineurs.
Pour répondre là-dessus, il y a plusieurs facteurs. Il y a des questions politiques, de politique interne. Le Parti travailliste a souffert pendant de longues années de l'entrée en guerre en 2003 en Irak, la deuxième guerre d'Irak, à côté des États-Unis. Donc, les responsables politiques ont ça à l'esprit, donc ça les rend prudents. Ça c'est une chose.
Attendez, je vous interromps juste pour une toute petite chose. Votre premier ministre de l'ombre, Madame Badenoch, a dit ben, « Nous, si on avait été au pouvoir, on aurait aidé en Iran parce que c'est bel et bien notre guerre. Voilà. » Et Boris Johnson a dit la même chose à Greta Van Susteren à la télévision. Je l'ai vu sur Newsmax il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, les gens plutôt de votre parti, eux, seraient intervenus, vous pensez, ou pas?
Je pense qu'ils auraient...
Enfin, c'est ce qu'ils disent.
Ils auraient essayé de ménager le chèvre et le chou comme les travaillistes, parce que c'est extrêmement délicat comme problème. Le fait que cette guerre ait été déclenchée sans aucune consultation des alliés est quand même quelque chose qui a consterné l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. S'agissant des travaillistes, j'ai déjà mentionné le vote musulman qui existe, qui était depuis toujours jusqu'à une date récente acquis aux travaillistes massivement et qui maintenant leur échappe en grande partie. Comme je l'ai déjà dit, à cause d'une politique considérée comme étant trop pro-Israël. Donc, je suppose que cela aussi a incité Starmer à être très prudent, très précautionneux à ce sujet.
Autre question.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, beaucoup de gens, y compris dans les hautes sphères militaires et de renseignement, étaient opposés à cette guerre. On considérait que c'était une erronée comme idée, pas justifiée. Il est fort possible, on peut concevoir que le gouvernement britannique a simplement dit que c'est une mauvaise guerre. Donc, il n'y a aucune raison de s'y associer.
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense, c'est pas le sujet du jour, mais puisque vous l'abordez, j'ai 2 minutes là-dessus. Je pense que Trump et les militaires ont eu tout à fait raison de faire cette opération, parce que les gens ne le savent pas, mais le public américain le sait quand même depuis 47 ans. L'Iran nous a déclaré la guerre à nous, l'Ouest, tout entier. Pas qu'à l'Amérique et pas qu'à Israël. Et si Trump a fait ça alors qu'il y a des élections 8 mois plus tard, ça a dû être calculé. Il a pensé que ça serait réglé. Ça devrait être réglé maintenant. Il a pensé que ça pourrait être réglé rapidement. Et il fallait de toute façon le faire. Jusque-là, moi, je le soutiens. Ou je ne le soutiens plus. Et il a eu raison de ne pas prévenir les alliés, entre guillemets, européens, puisque le secret de l'opération aurait été éventé. Et on serait encore à discuter, est-ce qu'il faut intervenir ou pas. Et, l'opinion en Europe n'est pas au courant du soi-disant deal que Obama a signé en 2015 avec l'Iran, qui était une négociation complètement ratée, puisque l'Iran, dans le dos d'Obama et avec l'argent qu'Obama avait donné, s'est réarmé et était prête là, à avoir une bombe atomique. Et on ne peut pas laisser une bombe atomique à des ayatollahs qui sont fous de Dieu et qui ont en plus du pétrole et qui peuvent faire du chantage au monde entier. Donc on ne pouvait pas, il fallait intervenir. Ou je ne suis pas d'accord du tout avec Trump, moi à mon tout petit niveau, et je l'ai dit il y a un mois, j'aurais voulu qu'il mette toute la gomme, qu'il en termine, qu'il mette ce régime à genoux et qu'il demande grâce et qu'ils abdiquent. Bon, et ils ne l'ont pas fait. Et je ne vois pas pourquoi Trump tergiverse et se perd en négociation avec... On ne négocie pas avec Hitler ou avec Staline ou avec Pol Pot. On les anéantit, point à la ligne.
Comment pensez-vous que ça va aboutir?
J'en sais rien.
C'est ça.
Je n'en sais rien. Et moi qui suis très pro-Trump, je l'ai suivi jusque-là, mais ça fait depuis un mois que je me demande véritablement qui il écoute. Parce qu'il y a énormément de militaires, contrairement à ceux que vous avez cités, Monsieur Thompson, beaucoup de militaires américains qui expriment leur inquiétude à la télévision.
Et
qu'ils ne comprennent pas pourquoi le président, là, a arrêté le... Parce que ça marchait bien, mais il fallait aller jusqu'au bout. Ils ne comprennent pas pourquoi il a arrêté. Alors, est-ce qu'il écoute Kouchner et Witkoff? Je ne sais pas qui il écoute.
Mais... Je vous renvoie à l'analyse intéressante de Renaud Gérard dans le Figaro d'hier, disant que Trump a tout simplement été trompé par Netanyahu et le chef du Mossad qui est venu avec Netanyahu en février pour les convaincre, pour le convaincre d'y aller. Et Trump a eu l'intelligence de s'en rendre compte et donc de changer de cap et de dire il faut en sortir. C'était une erreur. Il est assez intelligent et il a assez de personnalité pour reconnaître ses erreurs. Et donc maintenant, il cherche une porte de sortie sans aucun doute, parce qu'il se rend compte que c'était erroné.
C'est une explication, mais je suis pas convaincue. Et il est certainement un des plus acceptables qu'on voit dans ses télévisions le soir, mais. Et ce qu'il écrit, mais le Figaro est un journal de toute façon qui n'est pas de mon bord, ce sont des centristes. Et puis en ce qui concerne l'Amérique, ils ne savent pas grand-chose, je pense.
Mais vous avez des informations, vous suivez de très près les informations.
Moi je crois les militaires américains.
Donc nous avons ici des informations un petit peu différentes sur la France, sur Paris. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre point de vue, Evelyne.
Ah mais je prétends pas du tout avoir raison, mais moi
on écoute les informations, nous n'avons pas toutes les informations.
Moi j'écoute les grands généraux qui étaient partants pour cette guerre et qui comprennent pas pourquoi tout à coup ça a arrêté, là, alors qu'on était le momentum était pour eux et que la victoire était très proche. Alors ils sont difficiles ces ayatollahs à mettre à genoux, on les a tués mais ils ressurgissent, ils ont plus... Mais néanmoins, on ne comprend pas pourquoi s'acharner à des négociations avec des gens qui ne sont pas dignes de négociations.
Parce que l'intervention terrestre est inenvisageable en Iran. Enfin, c'est un pays très vaste, difficile.
Néanmoins, bah oui, mais ça ne pourra pas se... Alors, bon. Enfin, bref, c'est pas le sujet du jour.
Voilà.
Alors, revenons. Alors, on a encore un tout petit peu de temps pour parler de Charles III, mais moi, j'aimerais quand même avant, parce que c'est intéressant ce qu'il dit Jenrics. Alors, vous n'aimiez pas beaucoup Robert Jenrics, mais c'est le type même... du membre éminent du Parti conservateur qui est parti. Et il explique, lui, pourquoi il est parti. Et je vous cite quand même, là, ça c'était en janvier 2026, donc c'est quand même relativement récent, il dit que le Tory Party, c'est-à-dire les conservateurs, reste en fait assez inerte et bloque les actions qui seraient tellement nécessaires pour sauver le pays de l'impasse où il est. Et il dit ceci, notre loyauté première doit être au pays et non pas au parti. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Bien sûr.
Mais malheureusement, dit-il, Labour et les conservateurs, enfin les travaillistes et les conservateurs, ont brisé l'Angleterre. Labour a commencé avec l'immigration de masse, mais le Parti conservateur a rempilé sans discuter. Et ça, c'est damning, c'est-à-dire que ça, ben, ça les damnation. Et M. Jenrics éviscère son ancien parti et nomme même des personnalités. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, il nomme Top Tory Mel Stride, et Priti Patel. Priti Patel, je la connais. Je l'avais même entendu à une conférence. Il dit, ces gens-là nous ont trahis. Ils ont promis des choses sur l'immigration, ils ont menti. Ça ne s'est pas passé. Évidemment, les électeurs s'en sont souvenus. Et Jenrics, donc, dit qu'il faut quitter le Parti conservateur. Ce qui n'est pas drôle. Je me mets à votre place, Paul Thompson. Vous êtes conservateur vous-même, donc comment est-ce que vous prenez ces critiques? Il a raison, quand même, sur le fond. Et après, on parle un peu du roi Charles.
En ce qui concerne le personnage Jenrics, je suis réservé à son égard parce que je le perçois comme étant un opportuniste qui n'a pas, contrairement à Kemi Badenoch, une grande cohérence dans les idées et qui, vous avez évoqué le carriérisme tout à l'heure, je pense que lui est en plein dedans. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Et ses critiques sur le Parti conservateur sont largement partagées dans le pays, mais même au sein du Parti conservateur, il y a pas mal de gens qui diraient oui, c'est un salaud parce qu'il nous a trahis en quittant le parti.
Non,
néanmoins,
c'est votre ami Badenoch qui l'a renvoyé. Là, vous inversez les choses.
Il était en train de partir. Et elle a pris les devants pour l'évincer. Mais il était sur le point.
Elle voulait la place.
Il était sur le point de partir. Donc, c'est pour ça qu'elle l'a renvoyé. Mais encore une fois, pas mal de gens diraient oui, c'est quelqu'un qui nous a trahis. Mais ces critiques sont en bonne partie fondées. Je pense que, en ce qui concerne.
Moi, je le trouve très cohérent.
En ce qui concerne l'immigration, il était très centriste auparavant. Il est devenu plus à droite au fil des années, alors que Badenoch a toujours été sur la même ligne, plutôt à droite. Et donc, elle est plus cohérente pour
alors,
moi.
Alors, qu'est-ce qui vous reste maintenant que tous ces gens intéressants sont partis chez Farage? Qu'est-ce qui vous reste comme personnalité à part cette dame Badenoch que vous persistez à encenser? Je ne comprends vraiment pas pourquoi.
Je ne l'encense pas, mais je la défends contre des critiques.
Quelles sont les personnalités qui restent dans ce parti qui pourraient, premièrement, faire un mea culpa digne de soi et ensuite élaborer véritablement une remontée? Parce que pour le moment, ils sont dans le. Dans un fossé.
Dans les. Dans le shadow cabinet, dans le système britannique, on nomme des personnes, même si vous êtes en opposition, pour s'occuper des différents portefeuilles ministériels. Pour avoir quelqu'un qui est spécialisé, qui...
Et ils peuvent, dans la minute, remplacer le gouvernement.
Oui, et aussi, dans les débats, ils peuvent parler de ces questions. Donc, honnêtement, je ne connais pas tous les membres du cabinet.
Non, mais ceux qui se démarquent, ceux qui sont prominents. Vous devez quand même en connaître quelques-uns, ou alors il n'en reste plus. Il ne reste plus de grands noms du... Il y a Cleverly, James Cleverly, mais moi j'avais lu un article pas si clever que ça, c'est-à-dire qu'en fait il a dit des sottises lui aussi.
Oui, effectivement, James Cleverly est quelqu'un de solide. Il y avait quelqu'un qui était ministre des Finances et qui est rentré dans les affaires, qui est d'origine extra-européenne, Zachary ou quelque chose comme ça, qui est très intelligent. Mais je ne peux pas vous dresser un portrait de tous les membres du
non,
cabinet.
Non, mais vos hésitations sont très révélatrices. À mon avis, ça confirme que les grandes figures du Parti conservateur ont compris ce qui se passait et sont partis.
Plusieurs sont partis, soit le Braverman est parti, que je trouvais plutôt sympathique. Donc, le Parti conservateur a un problème d'affaiblissement à cause des changements de Premier ministre et de leader de parti répétés.
Je ne sais pas combien de temps il nous reste.
3 minutes.
3 minutes seulement. Alors, on n'a pas le temps beaucoup de parler du roi Charles. En 2 minutes seulement, Paul Thompson, dites-nous ce que vous pensez du roi Charles. Je suis sûre que je pense tout le contraire de ce que vous allez dire. Et puis, il est temps de conclure. Alors, je vous laisse conclure.
En ce qui concerne le roi Charles, je pense que c'est un excellent roi. Il a un sens du devoir. Il a bien réussi sa mission très difficile aux États-Unis dernièrement pour réparer les dégâts dans les rapports entre Washington et Londres. Donc, ça devrait vous faire plaisir, vous.
Il y a eu des bonnes choses dans ce qu'il a dit, mais il y en a eu de que vous n'avez pas remarqué, qui étaient moins bonnes aussi.
J'apprécie le fait qu'il a défendu, il a eu le courage de critiquer certains mouvements dans l'architecture moderne.
Non, mais c'était il y a longtemps, ça.
Ce qui était garanti, ça reflète la personnalité de la personne. Également, il défendait la cause écologique à un moment où ce n'était pas du tout à la mode.
Ça ne l'est plus. Donc,
des convictions véritables qu'il défend courageusement et je trouve que c'est admirable.
Vous trouvez ça admirable?
Oui.
Bon, Moi, je ne trouve pas Charles III admirable du tout. Je pense qu'aux États-Unis, oui, il s'est pas mal débrouillé, mais bon, il a quand même... Alors là, son discours, il avait dû... C'est pas lui qui l'avait fait, mais il avait dû l'approuver. Il s'était débrouillé pour que ce soit dit, pas trop clairement, mais quand même, les gens qui le connaissent comprennent. Il est toujours écolo dingue. Il est toujours mondialiste. Et il est prêt à n'importe quoi pour garder sa place, c'est-à-dire, pour moi, c'est un roi d'Imi. Voilà, c'est un roi d'Imi. Et il ne nous reste plus qu'une minute. Alors, Paul Compton, je vous laisse conclure sur la situation d'Angleterre. Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, bientôt?
Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la situation est en ébullition. Comme je l'ai déjà dit, mais c'est le point majeur à retenir. C'est très imprévisible. J'ai lu hier soir dans The Economist une analyse intéressante sur la situation du Parti travailliste. Starmer est très impopulaire, mais le Parti travailliste est beaucoup moins impopulaire. Il pourrait même gagner une nouvelle élection. Mm. Et si Burnham passe et devenir leader du parti, ce qui est à mon avis probable, il aurait intérêt à appeler une nouvelle élection tout de suite et en espérant avoir une nouvelle majorité avec un nouveau discours de la trône que vous suivrez très attentivement, j'en suis sûr.
Ce n'est pas drôle tout ça parce que ça suppose que nous avons les travaillistes pour encore un certain temps à supporter. Merci, merci mes chers invités, merci à la technique, merci à Eric.
Merci, merci Benoît.
Et je vous dis, chers auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Nouveau Monde dirigé par Evelyne Josselin, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 27 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.